France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction. Rebonjour, Thomas Cluzel.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Depuis minuit, les fameux droits de douane dits réciproques annoncés par Donald Trump sont entrés en vigueur. De quoi aggraver un peu plus encore la guerre commerciale déclenchée par le président américain, notamment avec la deuxième puissance économique du monde, la Chine. Nous serons en direct de Pékin dès le début du journal. On se rendra en Argentine pour mieux comprendre les dessous d'une manipulation statistique ou quand les libertariens assurent que la politique de leur leader, Javier Milei, aurait permis de faire baisser la pauvreté. On reviendra par ailleurs sur la fin hier de 3 mois d'audience au procès de Nicolas Sarkozy qui se sont clôturés sur un tir croisé. Enfin, le monde du cinéma est-il à l'image de la société sexiste et patriarcale? On posera la question à notre invité aujourd'hui à l'occasion de la remise du rapport de la commission d'enquête sur les violences dans le secteur de la culture. Après une première salve samedi dernier, Donald Trump a donc déclenché cette nuit des droits de douane supplémentaires à l'importation. Une nouvelle surtaxe punitive s'appliquant à des dizaines de partenaires commerciaux et un chiffre en particulier vient illustrer cette décharge planétaire, le taux monumental de plus de 100% appliqué à la Chine. On va y revenir donc dans un instant. De quoi forcément ébranler l'ordre qui régnait jusque-là et depuis des décennies maintenant sur le commerce international. Alors pourquoi faire? Donald Trump lui-même d'ailleurs le sait-il vraiment lorsque le canevas idéologique qui sous-tendrait son activisme forcené se heurte aujourd'hui à tant de contradictions et d'autant plus lorsque le conseiller principal en matière de commerce du président américain, Peter Navarro, est soupçonné d'avoir inventé un expert dont le nom, Ron Vara, n'est autre que l'anagramme du sien pour crédibiliser ses théories. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle réalité arbitraire est censée soutenir l'économie et la prospérité des États-Unis, à moins qu'elle ne vienne frapper directement au porte-monnaie des Américains et n'alimente la grogne contre Donald Trump. Raison pour laquelle la meilleure stratégie pour certains semble être encore de laisser le piège se refermer tout seul sur l'imprévisible locataire de la Maison-Blanche sans riposter trop précipitamment, mais quand l'attaque est trop brutale, d'autres ne peuvent se résoudre à laisser passer une telle provocation. Et c'est le cas de la Chine. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Correspondant de France Culture à Pékin ce matin. La Chine a donc promis des mesures, je cite, « fermes et vigoureuses » pour défendre ses intérêts.
Oui, c'est ça. Alors même si dans un livre blanc publié ce matin, les autorités chinoises évoquent un dialogue équitable toujours possible pour résoudre les différends commerciaux avec les États-Unis, derrière cet apaisement apparent, Pékin reste en réalité sur une ligne de fermeté, des mesures vigoureuses à venir. On comprend entre les lignes que de nouvelles représailles devraient être annoncées prochainement après les 34% déjà de droits de douane décrétés vendredi dernier sur les importations de produits américains. Une confrontation assumé et le régime ici répond à tous ceux qui voient déjà l'économie chinoise s'effondrer à cause de cette guerre commerciale. Non, la Chine dispose de moyens abondant pour faire face, a dit ce matin le ministère du Commerce. Selon l'agence de presse Reuters, les principaux dirigeants chinois doivent se réunir demain pour évoquer les moyens de protéger l'économie nationale. La Chine pourrait laisser sa monnaie, le yuan, se déprécier. Et puis Pékin va aussi chercher à consolider de nouveaux marchés pour remplacer celui des États-Unis. Ce matin, Xi Jinping dit vouloir renforcer les liens avec les voisins asiatiques. Et ce n'est pas un hasard si le président chinois, en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, vient de décider d'effectuer la semaine prochaine une visite à Kuala Lumpur, en Malaisie.
Merci Sébastien Berriot en direct de Pékin. Alors dans ces conditions, on comprend aisément qu'il est difficile aujourd'hui de se projeter dans l'avenir. C'est toutefois le défi que s'est lancé l'Observatoire français des conjonctures économiques qui rendait ses conclusions ce matin. La croissance dans l'Hexagone devrait atteindre 0,5% du PIB en 2025, 1,1% en 2026, lesté évidemment par le péril d'un conflit commercial d'ampleur et durable consécutif à ces surtaxes douanières américaines, mais pas seulement. Avant même d'ailleurs la tempête douanière, les incertitudes avaient déjà conduit la Banque de France à réduire ses prévisions de croissance pour cette année. Et à ce titre, Camille Manière, l'incertitude politique sur la scène intérieure semble jouer un rôle prépondérant.
Attention à ne pas tout ramener à Donald Trump, semble nous dire l'OFCE. Elle rappelle que l'économie française est très peu dépendante finalement de ses exportations vers les États-Unis et ne devrait donc pas être plus que cela touchée par les droits de douane américains. En tout cas, s'ils en restent à ceux annoncés la semaine dernière et s'il n'y a pas d'escalade de représailles de la part des pays plus directement touchés. Dans le scénario foncièrement prudent donc de l'OFCE, le principal effet de cette crise commerciale mondial initié par la Maison-Blanche, c'est le fait qu'il renforce l'incertitude qui paralyse les acteurs économiques. Mais cette incertitude, elle reste avant tout franco-française. On voit deux postes en particulier qui grèvent l'activité économique en France, la politique budgétaire et l'instabilité politique, avec le spectre d'une censure du gouvernement toujours présente et celui d'une dissolution de l'Assemblée qui va revenir dès l'été prochain. Sur la politique budgétaire, on parle bien sûr de la réduction des dépenses publiques, notamment de certains programmes de soutien de l'emploi, de l'apprentissage, qui vont avoir des effets bien réels sur les recrutements. Combiné avec un regain de productivité post-Covid, il devrait faire remonter le chômage autour de 8% cette année et au-delà l'an prochain. Plus globalement, nous dit l'OFCE, ce qui avait redonné des couleurs à la croissance française après le Covid, c'était le commerce extérieur et la dépense publique, deux facteurs qui apparaissent fragilisés à court terme, avec en face un taux d'épargne des ménages et des entreprises qui ne devrait pas baisser autant qu'espéré, conséquence là aussi du climat d'incertitude qui persiste. Et le résultat, donc, c'est une prévision de croissance de l'OFCE à 0,5 points de PIB cette année, assez loin des 0,9 toujours prévus par le gouvernement Bayrou.
Le Fonds monétaire international a annoncé hier être parvenu à un accord préliminaire avec l'Argentine pour lui fournir un nouveau programme de prêt de 20 milliards de dollars sur 4 ans.
Un accord qui doit encore recevoir la validation formelle du conseil d'administration du FMI. En attendant, la crise économique comme la pauvreté continue à gangréner le pays malgré une amélioration enregistrée ces derniers mois, du moins selon les chiffres avancés par les autorités, sauf que tous n'y croient pas et c'est ainsi que la CGT a décidé de battre à nouveau le rappel en décidant d'une grève générale aujourd'hui et demain, soit la troisième depuis l'arrivée de Javier Milei au pouvoir. Les précisions depuis Buenos Aires de Caroline Vic.
Cette semaine, Milei euphorique a inondé les réseaux sociaux de la baisse de 16 points du taux de pauvreté entre janvier et décembre 2024 due à la diminution de l'inflation. Juan Bonfiglio, sociologue et chercheur à l'Observatoire de la dette sociale de l'Université catholique argentine.
Il y a bien eu une baisse de la pauvreté et elle est seulement liée à la baisse du prix des aliments. Car il y a aussi eu des hausses des prix des services publics, de l'éducation, des médicaments, mais qui ne sont pas prises en compte dans le calcul alors que ce sont en réalité les principaux indicateurs de la pauvreté.
C'est pourquoi bon nombre d'Argentins qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois ont été surpris par ce taux de pauvreté. Alfredo Serrano Mancilla, directeur du Centre stratégique latino-américain de géopolitique.
Il est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent un peu au-dessus du seuil de pauvreté, mais qui ne vivent pas bien. D'après nos études, près de 80% de la population argentine est constituée de pauvres et de presque pauvres qui vivent dans les mêmes conditions que les pauvres.
2024 a été pour les Argentins une année de montagne russe, et ça c'est un fait. Ils reviennent maintenant à la case départ, à ces 38% de pauvreté, le même taux trouvé par Javier Milei au moment de son arrivée au pouvoir en décembre 2023.
Un reportage à Buenos Aires signé Caroline Vic.
Midi 38 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Le verdict ne sera rendu que le 25 septembre prochain à 10h, mais déjà les plaidoiries de la défense hier au procès des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy seront venus clôturer 3 mois d'audience enflammée pour des accusations d'une ampleur inédite, 7 ans d'emprisonnement et 5 ans d'inéligibilité pour l'ex-chef d'État. Et comme attendu, au dernier jour des débats, donc ses avocats ont longuement plaidé la relaxe pour leur client. Qui répète son innocence. Quoi qu'il en soit, ce procès monstre aura été l'occasion aussi de se remémorer une autre affaire, celle de l'attentat contre le DC-10 d'UTA qui avait fait 170 morts, dont 4 Français. C'était en 1989. Pourquoi ? Parce que l'accusation au procès de Nicolas Sarkozy soupçonne certains prévenus d'avoir proposé à un haut responsable du régime libyen condamné à perpétuité en tant que commanditaire de le gracier en échange d'un financement à la campagne présidentielle. Alors parmi les parties civiles. Les proches des victimes de l'attentat ne sauront que lors du jugement si elles sont recevables en tant que telles. Le PNF a d'ores et déjà demandé qu'elles le soient, mais la défense de Nicolas Sarkozy s'est positionnée contre. Une violence de plus pour Daniel Klein qui a perdu son frère dans l'attentat, ainsi que Johanna Brett. Elle n'était qu'une enfant lorsque sa mère, hôtesse de l'air, a été tuée. Toutes les deux ont assisté à pratiquement toutes les audiences dont elles ressortent avec l'espoir que la justice les reconnaisse comme victimes. Témoignage recueilli par Florence Turm.
C'est très étrange de se rendre compte à l'intérieur de ce procès que et la corruption et le terrorisme sont liés par un même lien, c'est la peste et le choléra. Et ça, je trouve que c'est très lourd à porter, mais en même temps, ça me donne une force incroyable.
C'est vrai qu'on a ce statut de par notre histoire de victime du terrorisme, mais avant tout, nous sommes des citoyens. Et c'est vrai que lors de ces audiences, on s'est rendu compte à quel point les citoyens étaient concernés, devaient se sentir concernés par les procès de corruption. Avec Daniel, on se connaît depuis 35 ans, on se côtoie depuis une dizaine d'années, mais maintenant, je l'appelle mon bras dessous. Et avec d'autres parties civiles que moi, je ne connaissais pas, parce que c'est vrai qu'à l'époque du décès, j'étais quand même très jeune, donc il y avait beaucoup d'adultes autour de moi et moi je n'étais qu'une enfant. J'ai redécouvert des personnes avec qui je partage des pans d'histoire. Citoyennement, humainement, c'est une émulsion qu'on ne laissera pas retomber, je pense.
Au sein de notre petit groupe, là, des filles du décès, comme maintenant on s'appelle, moi j'ai rencontré des femmes que je ne connaissais pas et qui nous ont dit, Johanna, qui nous ont dit « Je n'ai jamais voulu participer à rien ». Je n'avais pas la force, j'étais trop loin, c'était trop dur, et on a vu arriver, en fait, deux ou trois femmes qui ont senti que là, c'était leur place. Je pense notamment à la femme du pilote, qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, c'est la première fois que je me sens bien dans cette histoire, que je me sens bien alors qu'elle fait partie d'un procès. Et ben voilà, on a gagné. Rien que pour ça, on a gagné.
90 personnes au total ont été entendues, des grandes personnalités du milieu artistique au syndicat en passant par les métiers de l'ombre, et parmi elles, certaines victimes ont pu témoigner pour la première fois. Après 5 mois d'enquête, c'est aujourd'hui que les parlementaires rendent leur rapport sur les violences commises dans le monde de la culture. Le constat est tout simplement terrifiant puisque selon les propres mots de la présidente de cette commission, l'écologiste Sandrine Rousseau, les violences morales, sexistes et sexuelles dans le monde de la culture sont systémiques, endémiques et persistante. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Sophie Lenné-Diodovic, directrice de casting et membre du conseil d'administration du collectif 50-50, lequel réunit plus de 1500 professionnels de la création, de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel français. Bonjour madame.
Bonjour.
Dans ses conclusions, la commission décrit le secteur culturel comme une machine à broyer les talent et le monde du cinéma en particulier comme le reflet plus amplifié de notre société à la fois sexiste et patriarcale. Comment l'organisation du modèle culturel français favorise selon vous ces violences? Est-ce que par exemple le modèle de production, de recrutement propre au secteur culturel constitue un terreau favorable à ces violences?
De toute façon, le cinéma, le spectacle en général ne reflète que la société, donc elle fonctionne de la même manière. On a tendance à faire travailler les gens que l'on connaît déjà. Enfin, c'est ça, il y a une espèce de microcosme qui permet forcément la perpétuation des violences. Donc oui, en fait, on y retrouve tous les pouvoirs de domination. Après, si la culture est mise en avant, c'est aussi parce qu'elle touche tout le monde puisqu'elle est. Elle est populaire, le public sont les citoyens, donc forcément ça la met plus en lumière, mais après on y retrouve exactement les mêmes problématiques dans toute la société.
S'agissant justement de ce pouvoir de domination, dans leur rapport, les parlementaires pointent un culte du créateur tout-puissant comme terreau de l'abus de pouvoir, du sentiment d'impunité. Comment se manifeste ce culte du chef dans le quotidien d'un tournage tout d'abord, et puis peut-être plus largement dans l'ensemble du processus de production d'un film?
Pour avoir été à l'Assemblée nationale ce matin, écouter M. Balanant et Mme Rousseau, il a même repris cette phrase-là en disant le culte du talent, parce qu'il voulait élargir au fait qu'il n'y a pas que les réalisateurs en fait qui peuvent bénéficier de ce culte, mais des acteurs très connus également. En fait, effectivement, c'est un peu le souci dans nos métiers, c'est qu'il y a des stars, comme on les appelle, soit créatives, soit interprètes, et en fait, elles ont le pouvoir de faire que les films existent, donc le pouvoir d'exercer leur autoritarisme, toute leur perversité s'ils en ont. Et ça, effectivement, au nom de l'art, les excuse toujours énormément, parce que ce sont des soi-disant des artistes, donc un artiste aurait le droit d'avoir ses humeurs, comme on dit, et de les exercer autant qu'il veut, alors qu'il n'a pas plus de privilèges que les autres, a priori.
Est-ce que peut-être l'invisibilisation des femmes, aussi assez largement entretenue dans la création, favorise peut-être ce culte du créateur tout-puissant profondément masculin?
Alors oui, bon déjà c'est assez culturel parce que effectivement le cinéma en France, alors si moi je parle vraiment du cinéma, effectivement avec les films d'auteurs, c'est vrai que ça les rendait plus puissants et après la parité, moi qui fait partie du collectif 50-50 et qui lutte justement pour plus de parité, on a constaté que en tout cas dès que les équipes sont plus paritaires, eh ben il y a moins de violence, déjà de moins d'agissements sexistes, moins d'harcèlement sexuel, puisque c'est pas pareil d'être une femme entourée de 40 hommes ou quand il y en a une quinzaine. Et donc ça diminue les violences, la parité, ça c'est sûr et certain.
Une dernière question, la commission a prioritairement enquêté sur la situation des mineurs dans le secteur du cinéma. En tant que directrice de casting, je le rappelle, est-ce que les parents que vous rencontrez vous semblent suffisamment mis en garde face au risque de violence, de harcèlement sexuel au sein de ce secteur?
Non, je pense que c'est important, moi qui suis directrice de casting et notamment pour les mineurs, je pense que les parents étaient pas assez informés. Donc c'était de manière très individuelle. Moi, je sais que j'envoie les scénarios tout de suite. En fait, le but, c'est de les informer le plus possible de toutes les étapes d'un processus et qu'ils ne soient jamais mis de côté, parce que c'est un peu le défaut d'isoler toujours un peu les parents des informations pour pouvoir mieux manipuler en tout cas leurs enfants si besoin. Donc effectivement, il fallait beaucoup plus de transparence et les recommandations du rapport de la commission d'enquête ont quand même bien compris ça, et le poste de responsable enfant par exemple est très important, et dès le casting, moi j'ai aucun souci à avoir un responsable enfant avec moi en casting pour vérifier que voilà, qu'il comprend tout ce qui est en train de se passer, que son consentement est la priorité pendant toute cette phase-là.
Et on terminera par ces mots. Merci Sophie Linné-Diodovitch, donc directrice de casting et membre du conseil d'administration du collectif 50-50, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aline Biette pour la préparation.
10 mois après avoir vu son examen brutalement interrompu par la dissolution, le texte sur la fin de vie fait son retour à l'Assemblée.
Un texte scindé en 2 propositions de loi. La première porte sur les soins palliatifs globalement consensuels. Elle devrait être adoptée sans difficulté. La seconde, en revanche, porte sur l'aide à mourir. Or, c'est là, évidemment, le cœur du débat, puisque même si les termes plus courants, plus clivants de suicide assisté et d'euthanasie ont été retirés, il s'agit bien, à travers cette seconde loi, donc de légaliser sous condition l'un des l'autre, ce qui, on l'imagine, donnera lieu à d'inévitables et intenses controverses. En gestation depuis près d'un an, le projet de loi dit de simplification arrive aujourd'hui dans l'hémicycle du Palais Bourbon, un texte fourre-tout présenté initialement comme un vecteur pour faciliter la vie des citoyens et des entreprises, sauf que la version issue des travaux de la commission spéciale a transformé le texte en terreau d'une bataille politique.
À moins d'un an des municipales, les députés ont fini par adopter hier soir le principal article de la réforme du scrutin à Paris, Lyon et Marseille.
Et ce, dans un hémicycle très divisé et à front renversé. En l'occurrence, il est plutôt rare qu'un texte examiné à l'Assemblée réunisse le soutien des macronistes, de LFI et du RN à la fois. Rappelons qu'il prévoit pour l'essentiel d'instaurer 2 scrutins distincts pour les 3 métropoles. L'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, et puis l'autre pour élire ceux du conseil municipal sur une circonscription unique. On parlait à l'instant du Rassemblement National qui, toute la semaine dernière, n'aura eu de cesse de tempêter contre la peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire prononcée à l'encontre de Marine Le Pen, du moins jusqu'à son jugement en appel. Mais depuis hier, changement de stratégie, le parti à la flamme semble vouloir passer à autre chose. Pourquoi ? Élément de réponse avec Antoine Marette.
Il y avait eu les questions au gouvernement très offensives la semaine dernière de l'extrême droite sur l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen, venu de Jean-Philippe Tanguy, Laure Lavalette, Sébastien Chenu ou encore Éric Ciotti. Mais hier, lors des QAG, le Rassemblement National n'a pas évoqué le sujet. Tout s'est passé comme si le parti de Jordan Bardella avait tourné la page, même si le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, affirme que la mobilisation se poursuit.
Nous, sur le principe, nous restons très fermes. Marine Le Pen est évidemment innocente et évidemment l'inéligibilité à l'exécution provisoire qui lui a été assénée est tout à fait injuste et ne correspond pas, selon nous, à l'esprit des lois. Donc nous allons continuer à vouloir le prouver.
Prochain rendez-vous important pour Marine Le Pen, la proposition de loi d'Éric Ciotti visant à supprimer l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité. Un texte sur mesure pour la triple candidate à la présidentielle qui sera présenté le 26 juin prochain lors de la niche parlementaire du groupe UDR, mais qui a très peu de chances de passer. Et puis surtout, le jugement en appel qui a été avancé à l'été 2026. Mais pour le moment, il n'est pas prévu de nouveaux rassemblements de soutien à Marine Le Pen. La faible mobilisation de dimanche dernier a sans doute servi de leçon.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Encore instable sur les Pyrénées, le sud du Massif central et les Alpes. Ensoleillé partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 10 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.